Acte 3, où Russell abandonne la notion d'évidence pour lui préférer l'idée de système axiomatique. Il était 4 heures et X, après toutes ses réflexions, avait besoin d'un rafraîchissement. Elle se décida à s'asseoir à la terrasse d'un café qui donnait sur une grande place au milieu de laquelle jaillissait une fontaine. Le café étant bondé, X n'eut d'autre choix que de prendre place aux côtés d'un vieil homme qui fumait sa pipe.
Ouf, avec cette chaleur, c'est étonnant qu'il n'y ait pas plus de monde sur la plage.
C'est-à-dire que la plage est occupée par Euclide, un vieux bonhomme qui, chaque jour après la marée, réécrit ses éléments sur la plage. Le pauvre homme a sombré dans la folie et personne n'ose le déranger.
Ah oui, effectivement, je l'ai rencontré ce matin, sur la plage. D'ailleurs, il était impossible d'avancer sans marcher sur l'un de ses théorèmes. Mais vous savez pourquoi il fait ça?
Il faudrait lui demander, mais... Disons que le pauvre homme a régné en maître incontesté sur les mathématiques, en particulier la géométrie, ce pendant 2000 ans. Ensuite, il a été remis en cause, d'abord timidement, puis sévèrement par ses pairs. Il s'en remettra sans doute jamais.
Je vous comprends pas. Comment a-t-il pu être remis en question alors que l'ensemble de ses théorèmes a constitué un exemple de rigueur et de clarté pour toutes les disciplines? Cher monsieur, saviez-vous d'ailleurs que Euclide a démontré ses théorèmes à partir d'un nombre fini d'axiomes et en utilisant uniquement les lois de la logique?
Euclide, dites-vous. Mais Euclide n'a pas été aussi rigoureux qu'il a pu vous le faire croire.
Comment ça?
Mais tout d'abord, il existe un certain nombre de propositions qu'il a appelées postulats.
Oui.
Dont il ne savait s'il s'agissait d'axiomes ou de théorèmes.
Oui, c'est vrai. Il m'a parlé de son cinquième postulat.
Oui. Eh bien, pendant 2000 ans, les mathématiciens ont tenté de démontrer le cinquième postulat. D'abord à partir des autres axiomes. Mais ça a été un échec. Certains ont commencé à imaginer ce qui se passerait si le cinquième postulat était faux.
Faux? Mais attendez, le cinquième postulat, si je me souviens bien, stipule qu'étant donné une droite du plan et un point n'appartenant pas à la droite, il n'existe qu'une unique droite parallèle à cette droite. C'est évident. Comment peut-on imaginer que ce soit faux?
Le serveur, passant par là, interrompt la conversation.
Si vous me permettez, je crois qu'il est temps de préciser un peu votre vocabulaire. Il faut distinguer trois concepts. L'évidence, l'axiome et le principe. Pour chacun de ces concepts, la notion de vérité est différente. Ne mélangeons donc pas tout. L'évidence est un concept suffisamment vague pour avoir été abandonné par les disciplines scientifiques. Les erreurs que l'on peut commettre ou les illusions d'optique sont suffisantes pour nous montrer qu'il faut se méfier de ce que vous appelez « évidence ». Les croyances pluriséculaires ou les idées préconçues apprises insidieusement depuis l'enfance se font volontiers passer pour des évidences. Les scientifiques ont donc jugé utile de faire le distinguo entre les évidences et les propositions tenues pour vraies. Une évidence, dans l'acceptation commune, serait une proposition qui paraît vraie avec certitude et qui est vraie. Mais un certain nombre de philosophes, étant passés par là et ayant appris à douter de tout, y compris des soi-disant certitudes, cette définition est devenue bancale et inappropriée pour raisonner rigoureusement.
Et donc ?
On lui a donc préféré les notions d'axiome ou de principe. Ce sont des propositions tenues pour vraies, soit dans le domaine mathématique, pour les axiomes, soit dans le domaine des sciences naturelles, pour les principes. Dans le cas des axiomes, tenu pour vrai signifie décrété vrai, et la vérité de toute autre proposition se jugera à l'aune de ces axiomes. La notion de vérité est alors purement formelle. Les axiomes établissent un cadre, le système axiomatique, au sein duquel il est permis de parler de vérité. En dehors de ce cadre, la vérité n'a pas de sens. Un axiome ne peut pas être faux dans l'absolu. Il peut être faux à l'intérieur d'un autre système axiomatique le contredisant. Mais un axiome est toujours vrai, à l'intérieur du système axiomatique composé uniquement de lui-même. Dans le cas des principes, tenu pour vrai, signifie supposé en accord avec l'expérience. L'accord avec l'expérience est dans ce cas un critère de la vérité. Toute expérience allant à l'encontre d'un principe montrera donc que ce principe était faux. Compris ?
Sur ce, le serveur dépose l'addition sur la table et repart à toute allure, comme si de rien n'était.
Exactement, je n'aurais pas dit mieux. Et c'est tout l'intérêt des axiomes. Les axiomes sont là pour purifier le raisonnement, se débarrassant des fausses évidences et des « on voit bien que » qui ont fait commettre beaucoup d'erreurs aux mathématiciens. Si le cinquième postulat n'est pas l'un de nos axiomes, alors soit on peut le démontrer à l'intérieur de notre système axiomatique, dans ce cas c'est un théorème, soit on ne peut démontrer ni le postulat ni sa négation, et alors on peut choisir de l'accepter ou de le refuser. N'arrivant pas à montrer que le cinquième postulat était un théorème, et étant bien persuadé qu'il n'entrait pas en contradiction avec les autres axiomes, des mathématiciens se sont dit que peut-être on pouvait choisir de l'accepter ou de le refuser.
Des mathématiciens ? Qui ça, par exemple ?
Ben, y a Gauss. Gauss a été l'un des premiers à essayer de construire une géométrie en refusant le cinquième postulat d'Euclide, mais en acceptant tous les autres postulats. Ce faisant, il n'était pas sûr qu'il ne tomberait pas sur une contradiction, car encore une fois, il ne savait pas si ce postulat se déduisait des autres. S'il était tombé sur une contradiction, il aurait ainsi montré par l'absurde que le cinquième postulat était un théorème. Vous me suivez ? Je vois que oui. Gauss n'a pas été le seul à suivre cette voie. Un certain Ivanovitch Lobachevsky a aussi démontré un certain nombre de théorèmes en supposant que par un point extérieur à une droite passe plus d'une droite parallèle.
Hein ?
Il a par exemple montré qu'alors la somme des trois angles d'un triangle était inférieure à 180 degrés.
Attendez, là c'est absurde. Je me souviens très bien qu'on m'a appris que la somme des angles d'un triangle est précisément égale à 180 degrés. Il l'avait, sa contradiction ?
Pas du tout. Il est vrai que dans cette géométrie, dite de Lobachevsky, ou pour utiliser le langage moderne, la géométrie hyperbolique, on a du mal à se représenter les objets qu'on manipule.
C'est-à-dire ?
En particulier, un triangle dans cette géométrie n'a pas toutes les propriétés du triangle de la géométrie euclidienne que nous avons l'habitude de dessiner. Mais dans les deux géométries, la définition du triangle est la même, c'est-à-dire trois points non confondus reliés par des lignes droites. Dire que la somme des angles d'un triangle est inférieure à 180 degrés est faux en géométrie euclidienne, mais cela n'a rien de contradictoire en géométrie hyperbolique.
Ouh là là, j'avoue que j'ai un peu de mal à imaginer comment on peut faire de la géométrie si on n'a plus le droit de tracer de jolis triangles sur une feuille de papier.
Bah en fait, pour tout vous dire, on a le droit, mais à une condition.
Ouais.
C'est que la feuille ne soit pas un plan, mais un hyperboloïde à une nappe.
Mon Dieu, mais ça a l'air terrible !
Mais oui, mais c'est terrible ! Vous voyez la forme d'une cheminée de centrale nucléaire ?
Oui.
Eh bien, c'est une surface qui porte le nom d'hyperboloïde à une nappe. Vous définissez la droite comme le plus court chemin entre deux points.
Mm-hmm.
À partir de là, vous définissez vos triangles.
Okay.
Et vous pouvez constater que la somme des angles des triangles est inférieure à 180 degrés. Si vous faites de la géométrie à la surface d'une centrale nucléaire, votre géométrie sera une représentation de la géométrie de Lobachevsky.
Dingue.
De même, si vous faites de la géométrie à la surface de cette table quand vous dessinez, votre géométrie sera une représentation de la géométrie euclidienne.
Je crois que je comprends. C'est dingue alors. Maintenant que j'arrive à me représenter la géométrie des Lobachevsky, machin, elle me semble plus si étrange. Alors qu'avant, lorsque j'avais seulement des axiomes, j'étais dans le noir complet.
De l'importance d'avoir des modèles. Les axiomes, c'est très beau. Mm-hmm. Ça permet d'introduire de la rigueur, de cerner les difficultés. Mais en pratique, notre cerveau ne fonctionne pas axiomatiquement.
Mais alors, finalement, la géométrie de Lobachevsky, elle n'est pas contradictoire.
Parfaitement, vous avez tout à fait compris. Maintenant qu'on a trouvé un modèle, on a montré en même temps que le système axiomatique comprenant tous les axiomes et postulats d'Euclide, sauf le cinquième postulat, est non contradictoire. Cela dit, il a fallu attendre Félix Klein dans les années 1870 pour mettre en évidence un tel modèle, ce qui n'était pas si simple. Il faut retenir que le cinquième postulat n'est donc pas démontrable à partir des axiomes d'Euclide.
Le cinquième, ok, mais les autres ?
Ça, c'est David Hilbert qui, en 1899, il a clarifié toute la géométrie d'Euclide en réécrivant l'ensemble des axiomes de manière correcte. On s'était aperçu qu'Euclide, en plus des postulats douteux, utilisait certains axiomes sans le savoir. Bref, la question a été réglée et il n'y a plus de problème en géométrie euclidienne.
Ah, vous m'envoyez rassuré. Je vais pouvoir finir mon cappuccino sereinement.
Alors qu'elle approchait la tasse de ses lèvres, un cri strident fit soudain sursauter notre héroïne. Un homme chétif au beau milieu de la place imitait les pigeons en se dandinant parmi eux.
Vous voyez, jusqu'au milieu du 19e siècle, on a fait des maths sans trop se soucier des fondements. Excepté en géométrie, il y a encore. Je veux dire par là que certains faisaient de l'arithmétique, d'autres de l'analyse, d'autres de la géométrie, et on appelait tout ça les maths. Mais il n'y avait pas vraiment de socle commun. Chacun des domaines avait ses évidences implicites, et on voit bien que justifiées par des considérations empiriques. On a abouti à certains problèmes lorsque certains mathématiciens ont démontré des propriétés qui semblaient étranges.
C'est-à-dire ?
Par exemple, on a trouvé des courbes continues partout et nulle part dérivables. Je vais prendre un autre exemple. Peano a montré qu'on pouvait recouvrir la surface d'un carré avec une courbe. Une courbe, c'est pourtant d'épaisseur nulle.
Ouais.
Il existe une courbe donc d'épaisseur nulle qui est capable de recouvrir la surface d'un carré. C'est étrange. Alors, on s'est posé des questions existentielles du type, mais alors, une ligne, est-ce que c'est la même chose qu'une surface?
C'est assez terrifiant comme perspective.
Oui, c'est terrifiant. Un certain Cantor que vous voyez ici se prendre pour un pigeon a proposé alors un concept permettant de réécrire l'ensemble de l'édifice mathématique rigoureusement avec des axiomes en imitant Euclide.
Pourquoi faire?
Le but, c'était à la fois d'unir les différents domaines mathématiques et de résoudre les difficultés rencontrées. Ce concept miracle était celui d'ensemble.
D'ensemble?
Oui. Alors un ensemble, c'est une collection d'éléments.
Une collection?
Oui, un ensemble, si vous préférez.
Oui,
bon, Cantor utilise une notion intuitive d'ensemble. On peut considérer, par exemple, l'ensemble des gens sur cette place.
Oui.
L'ensemble des cappuccinos servis par ce café aujourd'hui.
Mmh.
L'ensemble des prénoms féminins, l'ensemble des mélodies à quatre notes.
Ouais, d'accord, je comprends. C'est assez simple, en fait.
Oui, mais il y a au moins un problème. Et c'est là où j'entre personnellement en piste. J'ai réussi à démolir une partie de la tentative de construction axiomatique de Cantor.
Ouais.
En mettant en évidence un ensemble qui est problématique.
Lequel?
L'ensemble des ensembles qui ne se contiennent pas eux-mêmes.
Ouf.
Je répète, c'est l'ensemble
ouais.
des ensembles qui ne se contiennent pas eux-mêmes.
D'accord.
Alors, appelons cet ensemble A.
A.
Par exemple, l'ensemble des philosophes allemands n'est pas un philosophe allemand.
Mmh.
Donc, l'ensemble des philosophes allemands appartient à A.
D'accord.
En revanche, l'ensemble des idées est une idée.
Oui.
Cet ensemble se contient lui-même.
Lui-même, oui.
Et donc, il n'appartient pas à A.
D'accord.
Vous me suivez?
Parfaitement, oui.
Alors, qu'en est-il de l'ensemble A? Est-ce que l'ensemble A se contient lui-même?
Ça ne doit pas être si difficile à savoir. Supposons que A appartienne à A. Alors A, par définition, n'appartient pas à A. Attendez. Supposons donc que A n'appartienne pas à A. Alors dans ce cas, A ne se contient pas lui-même, donc il appartient à A. Oh non, ça recommence.
Et oui. Dans les deux cas, on aboutit à une contradiction.
Complètement. Hein.
Si vous y réfléchissez, c'est grosso modo le même paradoxe que celui du menteur, celui qui dit « je mens ». Ou encore le paradoxe du barbier qui ne rase que les hommes qui ne se rasent pas eux-mêmes. Et la question étant alors, mais qui rase le barbier?
Qui rase le barbier? Alors on est fichu, pas d'axiome pour les maths.
Bah non, on n'est pas fichu, mais en fait il faut restreindre la définition de l'ensemble.
Comment ça?
La notion intuitive ne convient pas. On acceptera alors, par ensemble, seulement les ensembles pas trop gros. Les ensembles finis, par exemple, il n'y a pas de problème. Pour les ensembles infinis, on ne les interdit pas, mais il faut s'assurer qu'ils vérifient un certain nombre de règles. La théorie des ensembles, dite naïve, qui a été formulée par Cantor, acceptait toute classe d'éléments définis par une propriété quelconque. Mais en 1908, Zermelo puis Frankel ont établi une liste de 6 axiomes. Et ces axiomes restreignent les ensembles considérés. Les axiomes ne ressemblent ni à des évidences, ni à des tautologies. Ce sont des énoncés qui affirment l'existence, alors le terme d'existence restant intuitivement compris. Ces axiomes affirment l'existence de certains ensembles.
C'est-à-dire?
Par exemple, l'axiome de l'infini,
mmh.
il permet de construire facilement l'ensemble des entiers naturels. 1, 2, 3, 4, etc. Un autre axiome postule l'existence de l'ensemble vide. C'est-à-dire l'ensemble qui ne contient aucun élément. Puis il y a aussi, par exemple, l'axiome de la paire. L'axiome de la paire, il affirme qu'il est possible de construire un nouvel ensemble à partir de deux autres ensembles, tels que le nouvel ensemble ne contienne que les deux autres. Bon, eh bien, tous ces axiomes ont permis de réécrire les maths sur une base assainie. Puis là, donc la crise des fondements était passée et on pouvait continuer à faire des maths sereinement.
Okay.
Mais les matheux y ont laissé des plumes. Les ensembles n'étaient plus la généralité absolue qu'ils auraient espéré. Puis bon, Cantor était déjà devenu fou.
Ils regardèrent Cantor qui s'était figé pour imiter une fontaine crachant de l'eau.
Voilà donc à quoi pense un mathématicien quand vous lui dites axiome. Il se dit, super, grâce à Zermelo Frankel, je sais que ce que je fais ne sera pas remis en cause. Du moment que je reste logique dans mes déductions. Zermelo Frankel me fournit un fondement solide. Du moment que j'accepte Zermelo Frankel, les maths sont vraies et inébranlables et personne n'oserait refuser Zermelo Frankel. Bref, les maths, c'est une vraie science. Bien sûr, vous vous en doutez, dans les faits, les choses sont un peu plus complexes. Beaucoup de mathématiciens, déjà, ne connaissent pas leurs propres axiomes.
Pourquoi ?
Pour la simple raison qu'ils sont inutiles pour la pratique mathématique, le développement quotidien des maths. Les mathématiciens démontrent leurs théorèmes à partir de ce qui a été démontré avant, mais ne se cassent pas la tête à remonter systématiquement aux sources. Ensuite, il y a l'axiome du choix.
C'est-à-dire ?
Certains mathématiciens acceptent cet axiome, d'autres le refusent. Ils n'entrent pas en contradiction avec les autres axiomes. Les maths sont donc en partie boiteuses, car certains théorèmes vrais en acceptant l'axiome du choix sont faux en le refusant. Puis enfin, il y a la théorie New Foundations, NFU. La plupart des mathématiciens ignorent cette théorie, mais c'est en fait un système axiomatique qui est plus vaste que Zermelo-Frankel.
Donc plus complet.
En un sens, oui. En particulier, il y a moins de restrictions sur les ensembles considérés. Mais bon, pour des raisons historiques, NFU est arrivé un peu tard, hein, et est passé inaperçu.
Mais ok pour les maths, mais les autres sciences, elles pourraient bien être fondées axiomatiquement.
Alors certains ont essayé, mais vous comprendrez aisément par exemple qu'il n'y a pas de sens à vouloir fonder l'ornithologie axiomatiquement.
C'est vrai.
Il n'y a pas d'axiome lorsque la science se borne à classifier le réel. On peut voir apparaître des semblants d'axiomes lorsqu'on cherche à expliquer les phénomènes observés. Ces pseudo-axiomes, que les physiciens appelleraient plutôt des principes, sont en fait des hypothèses à vocation explicative. Les scientifiques qui les cherchent supposent que la description de la nature est réductible à un nombre limité de principes suffisamment simples pour être compris par l'esprit humain, et donc remplir leur rôle pleinement explicatif. Ces principes ou axiomes des sciences de la nature, comme les axiomes mathématiques, dissimulent le complexe sous le simple, ou plutôt font jaillir la pléthorique diversité des phénomènes, phénomènes naturels ou propriétés mathématiques, à partir d'une simplicité apparente de signification. Bref, celui qui rédige les axiomes, il croit saisir d'un seul mouvement ce qui apparaît divers et varié.
C'est pratique.
Alors en physique, plus particulièrement, il y a diverses tentatives d'axiomatisation qui ont été effectuées.
Par exemple ?
La plus réussie, je dirais que c'est la mécanique quantique, une poignée de principes clairement formulés mathématiquement, qui sont au fondement de la physique quantique. En relativité générale également, les principes de la théorie sont assez clairement énoncés, mais l'une des grandes difficultés actuelles est justement la réunification de ces systèmes axiomatiques, car contrairement aux axiomes mathématiques, l'établissement d'un système de principes cohérent n'a pas pour seul critère la non-contradiction, il y a une contrainte plus forte qui est celle de la description du monde qui s'impose.